Chapitre 4. L'écriture et les auteurs bibliques. Clinton Wallen. L'étude de la façon dont les auteurs bibliques utilisèrent l'écriture est liée à des questions herméneutiques telles que la nature de l'inspiration, la relation entre les deux testaments, le rôle d'Israël dans la prophétie et l'accomplissement des prophéties en général. De plus, une question se pose. Les auteurs inspirés avaient-ils accès à certains outils herméneutiques inaccessibles à d'autres interprètes, y compris les lecteurs modernes? Les théologiens évangéliques, sans mentionner leurs homologues plus libéraux, ont des positions très variées sur ces sujets. Heureusement, les théologiens adventistes sont généralement d'accord sur la plupart des questions herméneutiques importantes. Le principe majeur en lien avec notre sujet est le suivant. La Bible s'interprète par elle-même, et, quand elle est étudiée dans sa globalité, elle présente une vérité cohérente et harmonieuse. 2 Timothée 3, verset 16, Hébreux 1, verset 1, 2. La Bible s'interprétant par elle-même, il est important que nous étudions de quelle façon ce processus se déroule. Comment les auteurs bibliques interprètent-ils les écrits de leurs prédécesseurs? De nombreuses réponses ont été apportées à cette question, et la plupart d'entre elles ne sont ni utiles ni conformes au texte biblique. Par exemple, il n'est pas exact de dire que, lorsqu'ils citent l'Écriture, les auteurs bibliques lui donnent parfois un sens qui n'est pas cohérent avec l'intention de l'auteur. Il est aussi erroné de dire qu'ils utilisaient des méthodes d'interprétation qui ne furent employées que bien après la rédaction des derniers livres du Nouveau Testament, comme l'exégèse, le midrash homilétique ou les méthodes allégoriques. Ces affirmations ne font que semer la confusion. Nous ne pouvons aborder toutes les questions qui se posent dans ce chapitre, mais il convient de prêter une attention particulière à la façon dont les auteurs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament interprétaient l'Écriture. En effet, cela peut nous aider à interpréter leurs propres écrits. L'unité de l'Écriture. Tout d'abord, le Nouveau Testament citant fréquemment l'Ancien Testament, nous devons souligner le fait qu'il y a une unité et une continuité certaine dans l'Écriture. Cette continuité est manifeste grâce à certaines expressions comme « alliance éternelle », par exemple Genèse 17, verset 7, 13, 19, Psaume 89, verset 3, 4, 105, verset 8 à 11, Jérémie 32, verset 36 à 41, Hébreux 13, verset 20, et « évangile éternel », Apocalypse 14, verset 6, 7, voire Hébreux 4, verset 2. Nous devons aussi reconnaître que les auteurs du Nouveau Testament ont considérablement clarifié certaines notions liées à Israël, à l'Alliance et au plan de Dieu pour l'humanité. De plus, nous ne devons pas nous étonner de trouver certains changements au sujet des espoirs prophétiques du passé basés sur cette perspective éternelle ou universelle, en raison de l'attitude d'Israël face à Jésus. Voir par exemple Matthieu 28, versets 18 à 20. Jean 10, versets 14 à 16, Actes 2, versets 27 à 36, Romains 9 à 11, Galates 3, versets 16, 6, versets 15-16, 1 Thessaloniciens 2, versets 14 à 16, Apocalypse 21 et 22. Par conséquent, de nombreuses prophéties qui auraient pu s'accomplir dans le cadre d'un royaume israélite terrestre, voir par exemple Ésaïe 65, versets 17 à 25, ne s'accompliront que sur la nouvelle terre après le millénium, Apocalypse 20, versets 7 à 21, verset 5. En gardant ces principes importants en mémoire, nous allons voir de quelle façon ils sont mis en pratique par les auteurs bibliques. Avant de réfléchir à la façon dont les différents auteurs bibliques interprètent l'Écriture, il convient d'étudier de quelle façon ils abordaient sa dimension historique. L'histoire. Dans le canon biblique, on constate que les événements relatés dans l'Écriture et considérés comme historiques sont largement acceptés comme tels, à commencer par le récit fondateur de la création, de la chute et du déluge. On trouve de nombreuses mentions du récit de la création de Genèse 1 et 2, considéré comme un fait historique dans toute la Bible. Dieu est celui qui a fait le ciel et la terre, voir par exemple 2 Rois 19, verset 15, Néhémie 9, verset 6, Ésaïe 37, verset 16, Actes 4, verset 24. De nombreux psaumes affirment que le soleil, la lune, les étoiles et la vie sur la terre sont l'œuvre de Dieu. Voir par exemple Psaume 19, versets 1 à 4, 24, versets 1, 2, 33, versets 6 à 9, 90, versets 2, 95, versets 3 à 6, 102, versets 25, 104, 136, versets 5 à 9, 146, versets 6, 148. Et que les êtres humains ont été créés par lui. Voir par exemple Psaume 8, versets 3 à 6, 100, versets 3, 139, versets 13 à 16. Cette conviction sous-tend les valeurs bibliques, de la bonté vis-à-vis des plus pauvres. Proverbe 14, versets 31, 17, versets 5, et des employés. Proverbe 26, verset 10, jusqu'aux relations entre les nations et les peuples. Acte 17, verset 26, et au sein de l'Église. 1 Corinthiens 11, versets 7 à 12, Galates 3, verset 28, et de la famille, Éphésiens 5, versets 22 à 33. Les deux institutions basées sur la création, le sabbat et le mariage, Genèse 2, versets 1 à 3, 24, sont mises en avant dans l'enseignement de Jésus, Marc 2, verset 27, Matthieu 19, versets 4 à 6, et dans tout le Nouveau Testament. Les auteurs bibliques mentionnent la chute d'Adam comme étant une réalité historique, impliquant une rédemption grâce au second Adam, Romains 5, versets 12 à 19, garantissant la restauration finale des croyants à l'image de Dieu et leur immortalité, Romains 5, versets 20, 20 et 1, 1 Corinthiens 15, versets 45 à 54. La destruction globale lors du déluge et l'alliance proposée par Dieu à tous ceux qui vivent sur la terre après cela, Genèse 7, versets 17 à 23, 9, versets 8 à 17, sont considérés comme étant le fondement de l'espérance d'une part, Ésaïe 54, versets 7 à 10, Hébreux 11, verset 7, et du jugement du monde par le feu d'autre part, Matthieu 24, versets 37 à 39, 2 Pierre 2, verset 5, 3, verset 6, 7. Un autre thème dominant de l'Ancien Testament est l'exode d'Israël du pays d'Égypte qui lui apporta la délivrance de l'esclavage et fit de ce peuple une nation. Le récit de cet exode est repris dans le rituel de la Pâque, Exode 12, versets 25 à 27, et dans le prologue des 10 commandements, Exode 20, verset 2, Deutéronome 5, verset 6. De nombreux résumés de cet épisode se trouvent dans l'Écriture, voir par exemple Deutéronome 29, versets 1 à 9, Josué 24, versets 1 à 15, Néhémie 9, Psaume 78, 105, 106, 136, Acte 7, 1 Corinthiens 10, versets 1 à 10. Ces résumés font fréquemment allusion à la création et à l'Exode, ce qui montre donc que les auteurs bibliques croyaient à la véracité historique des événements relatés, à leur pertinence et à l'importance de se souvenir de cette page d'histoire du peuple de Dieu. Romains 15, verset 4, 1 Corinthiens 10, verset 11. De la même façon, les généalogies soulignent que le plan de Dieu est inscrit dans l'histoire. Le proto-évangile de Genèse 3, verset 15, annonce que la promesse de Dieu doit s'accomplir par la descendance de la femme et est repris dans les chronogénéalogies de Genèse 5 et 11, voir Genèse 10, versets 1 à 32, la postérité des patriarches, Genèse 25, 36, 46, Nombre 26, les généalogies de Moïse et d'Aaron, Exode 6, versets 14 à 25, de David, Ruth 4, versets 18 à 22, et les longues généalogies 1 Chronique 1 à 9. Le Nouveau Testament débute par une généalogie de Jésus, Matthieu 1, versets 1 à 16, et nous en avons une autre version dans Luc 3, versets 23 à 38, alors que Paul fait référence à ses ancêtres juifs depuis Benjamin, Philippiens 3, verset 5. Citation de l'Écriture par les auteurs bibliques. Le fait que les auteurs inspirés citaient l'Écriture souligne la confiance qu'ils avaient dans sa cohérence, sa clarté et sa véracité historique, et pas seulement sa vraisemblance. Une étude approfondie de ces citations peut nous aider à comprendre les différentes méthodes d'interprétation utilisées par les auteurs bibliques. La façon dont ils utilisaient d'autres écrits inspirés peut être un exemple pour nous, tandis que nous voulons adopter une méthode fiable nous permettant de comprendre l'Écriture. On peut identifier 5 catégories concernant l'usage d'autres écrits inspirés par les auteurs bibliques : exégétique, théologique, typologique, rhétorique et prophétique. Nous étudierons ces points de plus près, les illustrant avec des exemples. Emploi exégétique. On parle d'emploi exégétique de l'Écriture quand il s'agit de citations directes qui sont interprétées de façon conforme à l'intention du passage d'origine. Ainsi, les auteurs de la Bible hébraïque ont interprété des passages antérieurs. Les auteurs du Nouveau Testament ont interprété l'Ancien Testament, faisant souvent précéder leurs citations de formules introductives telles que « Il est écrit ». Les allusions sont plus difficiles à identifier, mais cela est tout de même possible en mettant en évidence la présence importante de mots-clés peu employés dans un passage ultérieur et faisant référence au contexte passé. La définition d'une citation directe et d'une allusion peut être utile, tout comme il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'échos scripturaires. Une citation présente une similarité verbale au texte massorétique ou LDSX. Une allusion reprend plusieurs mots ou expressions d'un passage de l'Ancien Testament, similarité verbale. Un écho comporte peu de parallèles verbaux, simplement un mot ou un thème. La citation et l'allusion sont conscientes, alors que l'écho n'est peut-être pas voulu par l'auteur, mais implicite dans le contexte. Dans les évangiles, nous constatons que Jésus cita et interpréta l'Écriture à de nombreuses reprises de façon exégétique. Dans Matthieu 19, par exemple, des pharisiens lui demandèrent si, d'après la loi de Moïse, il était permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif. Verset 3. Selon les traditions de l'époque mentionnées dans les sources rabbiniques, nous savons que l'interprétation de la notion d'inconvenance dans Deutéronome 24, verset 1, était un sujet controversé au 1er siècle. Dans sa réponse, Jésus mentionna à ses interlocuteurs que le contexte de l'Écriture ne devait pas être oublié, à savoir l'institution du mariage entre l'homme et la femme à la création, Matthieu 19, versets 4 à 6, voire Genèse 2, verset 24. Peu satisfaits de cette réponse, les pharisiens demandèrent à Jésus pourquoi Moïse réclamait, entelomai, une attestation de rupture. La réponse de Jésus révèle une exégèse claire et sérieuse du texte du Deutéronome. Tout d'abord, l'approche casuistique de la loi de Moïse indiquait que le divorce était permis, plutôt que réclamé, et ce, seulement lorsque le mari trouvait en son épouse quelque chose d'inconvenant. En disant ensuite que « celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle, et en épouse une autre, commet l'adultère », Jésus clarifie le sens du mot « inconvenant », « erwat dabar » en hébreu, et indique qu'il fait allusion à l'inconduite sexuelle, « porneia ». L'argumentation de Jésus défendant ses disciples qui, paraît-il, travaillaient le sabbat et le transgressaient en arrachant des épis le jour du sabbat est un autre exemple de méthode exégétique. En fait, Jésus expliqua que la dimension humaine avait la priorité sur la notion de sainteté, se basant non seulement sur le précédent établi par David en lien avec les pains sacrés du temple, mais aussi sur l'intention première du sabbat qui fut instituée pour l'homme, Marc 2, verset 27. En soulignant que le sabbat est le seul élément de la semaine de la création établie et genéto après la création des êtres humains, et donc fait pour eux, Genèse 2, verset 1 à 3, voire Genèse 1, verset 26 à 28, Jésus fait preuve d'une sensibilité exégétique à l'intention d'origine suggérée par le texte de la Genèse. On ne peut surestimer l'importance des paroles de Jésus qui donna un exemple à suivre en matière d'emploi de l'Écriture dans la proclamation de l'Évangile. Parmi les nombreuses références de Paul à la Bible hébraïque, son interprétation de la descendance, sperma, zera en hébreu, d'Abraham, dans Galates 3, versets 15-16, est souvent discutée. Paul préconise une lecture littérale de la forme grammaticale du singulier, malgré le fait qu'en grec et en hébreu, ces termes soient généralement au singulier collectif s'agissant de la descendance, même s'ils peuvent faire référence à un seul individu, comme dans la version de la Septante de Genèse 4, verset 25 et 1 Samuel 1, verset 11. L'emploi ultérieur de ce mot dans un sens collectif, Galates 3, versets 27 à 29 et ailleurs, montre que Paul connaît son sens habituel. Une étude approfondie du texte de Genèse 22, verset 17, tel qu'il est cité, montre que le sens du mot « descendance » passe de la description des nombreux descendants d'Abraham, comparés aux étoiles du ciel et au sable qui est au bord de la mer, à la descendance, Zéra, qui prendra possession des villes de ses ennemis. D'après Richard Davidson, dans le texte de Genèse 3, verset 15, on observe la même chose, à savoir que le sens du mot « descendance » passe d'une forme collective à un singulier messianique. Comme nous le verrons, ce passage de l'Israël collectif à une figure messianique unique est présent dans d'autres contextes. Une interprétation messianique de la descendance promise illustre de quelle façon la venue du Christ éclaire l'exégèse de l'Ancien Testament. Même si la dimension chrétienne ne doit pas être artificiellement plaquée sur les textes antérieurs, l'exégèse ne doit pas réduire le sens du texte original au point d'exclure un sens plus profond quand ce sens apparaît déjà dans le passage antérieur et est cohérent avec le contexte large de l'écriture. Ainsi, trois critères ont été proposés pour aider les théologiens à identifier les cas où le texte prend un sens plus large. 1. La présence de noms singuliers collectifs, tels que « descendance »,« serviteur », »,« branche ». 2. Le passage de pronoms ou de suffixes pronominaux du singulier au pluriel dans un passage de l'Ancien Testament. Par exemple, le mot « serviteur » fait référence à Israël dans Ésaïe 44, verset 1, et au Messie dans Ésaïe 52, verset 13 à 53, verset 12. Référence à la monarchie et au roi davidique par excellence, le Christ, comme on le voit dans l'alternance entre les pronoms singuliers et pluriels dans Amos 9, verset 11, 12. Et enfin, 3. Une analogie manifeste de l'écriture avec un principe théologique antérieur. Par exemple, la descendance de la femme, dans Genèse 3, verset 15, emploie déjà ce terme dans un sens quasiment technique. La méthode exégétique semble aussi être employée par Paul dans sa citation d'Ésaïe 54, verset 1, dans Galates 4, verset 27, malgré son emploi souvent cité d'allégoréo au verset 24. L'apôtre reconnaît que le passage d'Ésaïe, en comparant la ville de Jérusalem dévastée à une femme stérile et en employant des termes trouvés dans Genèse 11, verset 3-0, est une allusion à l'incapacité apparente de Sarah à porter des enfants. Le fait que, dans le contexte du chapitre 54 d'Ésaïe, on trouve des images de l'Apocalypse au sujet de la nouvelle Jérusalem ayant des fondations de saphir et des portes de cristal, versets 11 et 12, Bible en français courant, suggère qu'il s'agit d'une ville construite par Dieu, Hébreux 11, verset 10, voire Apocalypse 21, verset 10 à 21. En associant la Jérusalem de maintenant à Agar et la Jérusalem d'en haut à Sarah, Galates 4, verset 25-26, comme symbole de l'ancienne et de la nouvelle alliance, Paul ne fait pas de ce passage une allégorie, mais il souligne les implications sotériologiques d'une analogie déjà suggérée par Ésaïe et inhérente au récit de la Genèse où Abraham tenta d'accomplir la promesse d'une descendance faite par Dieu par des moyens humains. Comme le montrent ces exemples, une étude approfondie du contexte des passages cités par les auteurs inspirés, ainsi qu'une connaissance détaillée des antécédents bibliques, sont nécessaires dans bien des cas pour comprendre le contexte évoqué par leur exégèse. Emploi théologique. L'emploi théologique de l'écriture par les auteurs bibliques est manifeste quand des termes bibliques importants sont mentionnés sans explication. Nous avons déjà souligné le fait que le récit de la création était confirmé par les auteurs bibliques. Ainsi, il n'est pas surprenant de constater que ce thème apparaît dans leurs réflexions théologiques. Par exemple, l'origine d'Israël est décrite en des termes rappelant la création d'Adam, Ésaïe 43, verset 1, voire Genèse 2, verset 10, Colossiens 3, verset 10, et qui recréera les cieux et la terre afin de les restaurer dans leur état de perfection absolue, 2 Pierre 3, verset 11 à 13, Apocalypse 21, verset 15. L'évangile est basé sur la puissance de Dieu qui recrée, ou restaure, les êtres humains à l'image de leur Créateur, 2 Corinthiens 4, verset 6, 5, verset 17, Éphésiens 2, verset 7. L'Exode est un autre concept théologique très présent dans l'Écriture. Il était annoncé dans l'appel lancé à Abraham consistant à quitter Ur, Genèse 11, versets 31 à 12, verset 1, Néhémie 9, versets 7 à 12, voir Ésaïe 51, verset 2, et même prédit dans un rêve, Genèse 15, versets 12 à 16. Tout au long de l'Ancien Testament, l'Exode, à savoir l'intervention de Dieu qui permit de délivrer Israël de l'esclavage en Égypte, Exode 15, verset 22, devient un paradigme décrivant les futures actions de salut de Dieu, notamment l'exode d'Israël de retour de l'exil babylonien et son retour dans la terre promise, Ézéchiel 20, verset 33, Ésaïe 43, versets 16 à 19, 52, verset 12. Si, lors de l'exode, Yahvé sauva le peuple en traçant une route dans la mer et un sentier dans les eaux puissantes, alors il promet aux enfants de l'exil d'être avec eux quand ils passeront par les eaux agitées. Il préparera une voie et il fera apparaître des rivières dans le désert. En décrivant la vie et le ministère de Jésus en ces termes, les auteurs des évangiles montrent qu'ils connaissaient ce thème prophétique. Le texte de Marc 1, verset 3, cite celui d'Ésaïe 40, faisant un lien entre la mission de Jean-Baptiste et le nouvel exode d'Ésaïe. Matthieu considère que l'exode est récapitulé dans l'expérience personnelle du Christ. Sa citation d'Osée 11, verset 1, « D'Égypte j'ai appelé mon fils », Matthieu 2, verset 15, révèle sa connaissance du contexte du livre et d'autres prophètes du 8e siècle qui décrivent le retour d'exil du peuple d'Israël en des termes messianiques comme le nouvel exode. Cette idée tire son origine de l'Ancien Testament. Faisant allusion à la mort imminente de Jésus, Luc l'évoque en utilisant le terme grec « exodos », Luc 9, verset 31. Le fait qu'il soit mentionné que la mort du Christ ait eu lieu à la période de la Pâque, Jean 19, verset 14, voir 1 Corinthiens 5, verset 7, et que cet événement soit rappelé par la scène, 1 Corinthiens 11, verset 23 à 26, met l'accent sur l'approche chrétienne de la signification prophétique de cette fête juive et évoque peut-être l'enseignement de Jésus à ce propos. Un autre sujet est étroitement lié au concept d'un nouvel exode grâce auquel Israël rentrerait d'exil et serait à nouveau établi dans son pays, à savoir l'attente prophétique du royaume de Dieu en la personne d'un roi idéal. Voir par exemple Ésaïe 32, verset 1, 17, que les évangiles présentent comme une caractéristique majeure de l'enseignement de Jésus concernant le royaume de Dieu. Matthieu 4, verset 17, Marc 1, verset 15, Luc 4, verset 43, 17 à 21, Jean 3, verset 3, 5, 18, verset 36, on peut citer un autre thème récurrent dans le récit biblique, à savoir celui du grand conflit ou de la guerre du mal contre Dieu et ses plans, présent notamment dans le livre de l'Apocalypse, et plus précisément dans le chapitre 12. La guerre débute au ciel, verset 7, puis a lieu sur la terre, verset 9, une allusion à Genèse 3, et comprend un assaut final contre le reste eschatologique de Dieu, verset 17. Cette description du conflit entre Dieu ou le Christ et Satan montre que ce sujet est très présent dans l'Écriture et souligne son importance théologique. Un autre thème est là encore étroitement lié à celui-ci, à savoir la question du jugement qui, comme les psaumes et les livres des prophètes le montrent, est un outil de délivrance et de justification tout au long de l'histoire d'Israël et mettra fin au péché et à la mort. Daniel 7, versets 26-27, 8, verset 14, Apocalypse 20. Le jugement est également le moyen permettant de montrer que Dieu et ses plans sont justes et bons à tout point de vue. Romains 3, verset 4, Apocalypse 15, versets 2 à 4. Emploi typologique. Les auteurs de la Bible faisaient référence à l'écriture d'une autre façon, montrant qu'ils avaient une approche particulière de la relation entre les deux testaments, à savoir une approche typologique. En effet, certaines personnes, certains événements et certaines institutions étaient spécialement conçus par Dieu pour préfigurer leur accomplissement eschatologique en Christ et les réalités de l'Évangile manifestées en lui, et être des antitypes. La récurrence du mot « typos », « type », met l'accent sur cette approche typologique de l'Écriture par les auteurs du Nouveau Testament. Un type est une préfiguration voulue par Dieu d'une réalité future, une personne, un événement ou une institution, qui sera plus grande et plus complète, l'antitype. On trouve un exemple de typos dans la description que fait Paul d'Adam, la figure de celui qui allait venir, à savoir Jésus, Romains 5, verset 14. Dans les versets 12 à 21, nous trouvons une série de contrastes entre Adam, le premier homme de la race humaine, mais qui apporta le péché, la mort et la condamnation dans le monde, et Christ, à l'origine d'une nouvelle humanité, qui apporta la justice, la vie et la justification à ceux qui reçoivent ce don de la justice. Verset 17. D'autres passages mentionnant cette notion de typos permettent de faire le lien entre les deux testaments à partir de certains événements. La rébellion d'Israël dans le désert est un avertissement pour l'Église. 1 Corinthiens 10, versets 6, 11. Ou d'une institution. Le sanctuaire terrestre est le reflet de l'original céleste. Hébreux 8, verset 5. Outre ce procédé linguistique, il y a d'autres façons dont cette relation typologique est démontrée dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, Jésus fait référence aux trois jours et aux trois nuits passés par Jonas dans le ventre d'un grand poisson. Il précise qu'il s'agit d'un signe, saméion, ou d'un type de sa mort et de sa résurrection, et que son œuvre est plus grande encore. Matthieu 12, versets 38 à 41. Plutôt que d'adopter artificiellement une approche typologique du récit de l'Ancien Testament, il est explicitement dit, verset 40, que Jonas lui-même décrivit de façon poétique cette expérience difficile en ces termes. Jonas 2, versets 1 à 6, ce qui permit de faire un lien ultérieurement. Jésus insiste aussi sur le fait que le Messie attendu, au Christos, n'est pas seulement le fils de David, mais le Seigneur de David. Marc 12, versets 35 à 37, citant Psaume 110, verset 1. Et que son œuvre est plus grande encore que celle de Salomon. Matthieu 12, verset 42. Cela semble montrer que, dans certains psaumes, David décrit son expérience de façon poétique et avec un langage allant au-delà de ce qui pouvait être uniquement appliqué au roi historique en tant que fils de Dieu, voir par exemple Psaume 2 et 22. Étant donné la promesse solennelle faite à David, 2 Samuel 7, versets 12 à 16, voir 23, verset 5, et les annonces prophétiques ultérieures selon lesquelles Dieu allait susciter un nouveau David, Ésaïe 11, versets 1 à 5, Jérémie 23, versets 5, 6, 33, versets 20, 21, Ézéchiel 21, versets 25 à 27, Osée 3, versets 4, 5, Amos 9, versets 11, 12, Michée 5, versets 2 à 4, Zacharie 8, versets 3, voir Genèse 49, verset 10, Psaume 132, verset 11, les auteurs du Nouveau Testament identifient Jésus comme le personnage messianique préfiguré par le roi israélite et anticipé par les prophètes. Allant plus loin que les passages de l'Ancien Testament annonçant la venue du Messie, Jésus, en se décrivant lui-même comme le berger d'Israël, Marc 14, verset 27, Jean 10, versets 1 à 16, fait allusion au fait qu'en rassemblant le troupeau de Dieu, Ézéchiel 34, versets 23-24, 37, versets 24-25, Jérémie 23, versets 1 à 4, et en s'apprêtant à mourir sur la croix, Zacharie 13, verset 7, une prophétie est accomplie. Les allusions faites par les auteurs bibliques peuvent également suggérer un lien typologique. Par exemple, les références au jugement final, Psaume 50, versets 3 à 4, 97, versets 2 à 5, Michée 1, versets 3 à 4, 1 Corinthiens 3, verset 13, 2 Thessaloniciens 1, verset 8, 2 Pierre 3, verset 12, et notamment au lac de feu, Apocalypse 20, verset 9, 14, voire Psaume 46, verset 6, Nahum 1, verset 5, 6, semble identifier le déluge du temps de Noé comme un type de la destruction finale de ce monde. Il semble même y avoir au moins un exemple d'un événement futur utilisé comme un type anticipant un événement à venir plus important encore. Dans les paroles qu'il prononça sur le mont des Oliviers, Jésus décrivit la destruction imminente de Jérusalem, Matthieu 24, verset 15, voire Daniel 9, verset 26-27. Et il utilise ensuite cet événement à venir comme un type de la destruction qui surviendra à la fin du monde, Matthieu 24, verset 27-28, Luc 21, verset 25-26. Emploi rhétorique. Il existe quelques cas où les auteurs bibliques citent le langage de l'écriture, mais semblent en faire une application différente de ce que l'on pourrait imaginer en étudiant le contexte d'origine. L'un des exemples nous est donné par Paul dans 1 Corinthiens 9, versets 8 à 11, lorsqu'il fait allusion au commandement de Moïse. « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. » Deutéronome 25, verset 4. L'apôtre semble utiliser le langage du passage de l'Ancien Testament, mais il l'emploie différemment. Cependant, Paul défend son droit, ainsi que celui de Barnabas, à être soutenu financièrement par les églises en vue de la proclamation de l'Évangile, citant non seulement son autorité en tant qu'homme, mais aussi la loi de Moïse, versets 8 et 9. Puis Paul demande « Dieu a-t-il souci des bœufs ? En réalité, n'est-ce pas à cause de nous qu'il parle ainsi ? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, et celui qui foule le grain doit le faire dans l'espérance d'en avoir sa part. » Versets 9 et 10. Certaines personnes se sentent contraintes de dire que la mention de la loi énoncée avait pour but d'alléger la tension apparente entre cette loi et l'application qu'en fait Paul. Mais l'intention d'origine était clairement le bien des bœufs. Pourtant, Paul semble l'ignorer. Il y a là peut-être un principe implicite selon lequel si les animaux méritent une telle attention, alors les êtres humains en méritent davantage. Cependant, l'argumentation de Paul ne va pas dans ce sens. Et même si c'était le cas, le sens du texte qui est cité doit changer afin de correspondre à l'application qu'en fait l'apôtre. Application qui doit prendre une signification théologique étendue en harmonie avec la dimension miséricordieuse de la législation mosaïque dans son ensemble. Le fait que Paul fasse référence à ce que le Seigneur a prescrit, verset 14, et cite une autre partie de la loi, 1 Timothée 5, verset 18, évoque la possibilité qu'il adopte l'interprétation qu'en fait Jésus pour les ouvriers de l'Évangile. « L'ouvrier mérite sa nourriture », Matthieu 10, verset 10. Dans ce cas, les mots de la loi, tout en mentionnant le bœuf comme un exemple type, seraient applicables à tout ouvrier ou toute espèce d'animal, y compris les êtres humains. Dans ce cas, il ne s'agirait pas simplement d'un emploi rhétorique, mais d'une application exégétique du passage basée sur la façon dont il était compris au 1er siècle. Accomplissement prophétique. Enfin, il nous faut garder à l'esprit quelques principes majeurs concernant l'approche des auteurs bibliques de l'accomplissement des prophéties. Tout d'abord, les auteurs bibliques n'hésitent pas à affirmer que les prophéties sont prédictives, ce qui constitue environ 30% de l'Ancien Testament. Deuxièmement, les prophéties apocalyptiques bibliques, et notamment celles de Daniel et de l'Apocalypse, doivent être distinguées des autres formes de littérature apocalyptique, ainsi que des prophéties en général que l'on trouve majoritairement dans l'Ancien Testament. Le livre de l'Apocalypse utilise de nombreux symboles tirés des visions de Daniel, ce qui souligne les liens qui existent entre ces deux livres apocalyptiques. On peut notamment citer la période des 1260 années qui montre que ces deux livres évoquent la fin de l'histoire de ce monde et la réalisation des plans de Dieu ainsi que du triomphe du bien sur le mal. En bref, Daniel et l'Apocalypse s'interprètent mutuellement. On ne peut comprendre l'un de ces deux livres sans l'autre. D'un autre côté, les prophéties générales s'intéressent avant tout à la volonté de Dieu dans un cadre historique précis, cette volonté exprimée suscitant une réaction d'obéissance. Elle ne donne qu'un aperçu des événements de la fin des temps. Troisièmement, parmi les catégories majeures de prophéties prédictives de l'Ancien Testament, deux sont l'objet d'une attention particulière dans le Nouveau Testament, les prophéties messianiques et les prophéties concernant Israël. Nous allons maintenant étudier ces deux catégories de prophéties prédictives afin de mieux comprendre de quelle façon les auteurs bibliques les utilisent. Les prophéties messianiques. Les auteurs du Nouveau Testament sont convaincus que les attentes messianiques se sont concrétisées en Jésus, voir par exemple Luc 24, verset 27, Jean 1, verset 45, 2 Corinthiens 1, verset 20. Cependant, concernant certaines prophéties de l'Ancien Testament qui semblent faites pour trouver une application dans le Nouveau Testament, par exemple Genèse 3, verset 15, Nombre 24, verset 17, on ne trouve pas d'application directe ou explicite de leur accomplissement dans la vie du Christ. D'autres prophéties messianiques citées par les auteurs bibliques sont soit difficiles à identifier, par exemple Matthieu 2, verset 23, ou semblent n'être pas soutenues de façon manifeste dans les passages de l'Ancien Testament qui sont cités, versets 15 et 18. Cependant, une étude approfondie montre que ces prophéties sont citées de façon compréhensible par les auteurs bibliques, en harmonie avec le contexte immédiat et l'intention plus vaste de l'Ancien Testament. Nous pouvons prendre l'exemple de quelques passages. En prenant en compte notre réflexion sur la typologie, le psaume 2, attribué à David dans Actes 4, verset 25, semble s'accomplir en Jésus, qui est le Christ, Actes 4, verset 26, voire psaume 2, verset 2, et le Fils de Dieu, Actes 13, verset 33, Hébreux 1, verset 5, voire psaume 2, verset 7. Sur le plan prophétique, ce psaume dépasse la portée historique de l'Ancien Testament dans la mesure où il précise que le roi recevra les nations en héritage et que les limites de son royaume seront les extrémités de la terre. Psaume 2, verset 8, 9, voire Apocalypse 12, verset 5, 19, verset 15. De la même façon, Jésus lui-même suggère que la référence de David au Messie en tant que Seigneur, psaume 110, verset 1, indique autre chose que le simple rétablissement de la ligne de David, Marc 12, versets 35 à 37, voire Actes 2, versets 34 à 36. Pour aller plus loin, le fait que ce futur dirigeant appelé à s'occuper du troupeau de Dieu doive naître à Bethléem, Michée 5, versets 2 à 4, la ville de David, s'accomplit par la naissance du Christ et est confirmé par les auteurs du Nouveau Testament, Matthieu 2, versets 4 à 6, Luc 2, verset 4, voire Jean 7, verset 42. Il est très significatif aussi que les chants du serviteur d'Ésaïe 42 à 53 se soient accomplis en Christ, Matthieu 8, verset 17, 12, verset 15 à 21, Jean 12, verset 38, 1 Pierre 2, verset 21-22, voire Marc 10, verset 45. Dans le contexte d'Ésaïe, ces chants alternent entre des références à une entité corporative, le peuple d'Israël, serviteur de Dieu, et une entité individuelle, le Messie, ce qui indique que le serviteur messianique représentera et synthétisera l'expérience de l'Israël de l'Ancien Testament. Ce serviteur ne peut être Israël, car il ramène le peuple à Dieu, Ésaïe 49, verset 5-6, et il est puni pour ses transgressions, Ésaïe 53, verset 8. Ce chant final décrit aussi la résurrection du Messie, son ministère de grand prêtre qui intercède et l'exaltation royale, Ésaïe 52, verset 13, 53, verset 11-12. Prophétie concernant Israël. De nombreuses prophéties concernent l'avenir d'Israël, et les promesses, comme les avertissements, étaient conditionnelles et dépendaient de la réaction du peuple à la parole de Dieu, voir Jérémie 18, versets 7 à 10, Jérémie 7, verset 23. C'était aussi le cas pour les autres nations, par exemple les Cananéens dans Genèse 15, verset 16, et le peuple de Ninive dans Jonas 3, versets 4 à 10. Les promesses de Dieu faites à Abraham et réitérées à Isaac et Jacob étaient liées au don de terre, à une descendance nombreuse et à l'assurance d'être une bénédiction pour les autres nations. Genèse 12, verset 13, 15, verset 8, 17, verset 7-8, 26, verset 2 à 5, 28, verset 13 à 15. Cependant, ces promesses ne peuvent être dissociées de la raison d'être d'Israël, à savoir adorer Dieu, Exode 4, verset 22, et former une nation sainte, Exode 19, versets 4 à 6. D'après Paul, l'appel d'Israël était inconditionnel, Romains 11, versets 1 et 29. Mais son appartenance continue au peuple de Dieu dépendait de sa capacité à accepter Jésus, versets 22 et 23, voir Osée 1, versets 9 et 10. L'Ancien Testament dit clairement que la terre n'appartenait pas uniquement à Israël, c'était la terre de Dieu, Osée 9, verset 3, Jérémie 2, verset 7, une terre sainte, Psaume 78, verset 54. Il fallait donc respecter un sabbat pour la terre tous les 7 ans, et elle ne pouvait être vendue de façon définitive. Lévitique 25, versets 2 et 23. L'occupation de la terre par Israël dépendait de son obéissance. Dans le cas contraire, elle serait, et fut, perdue et le peuple serait dispersé. Ésaïe 1, versets 19 et 20. Jérémie 7, versets 3 et 5. Ainsi, le retour à la terre d'Israël impliquait également un retour spirituel au Seigneur. Ésaïe 10, versets 20-21. Jérémie 23, versets 5 à 8, voire Ézéchiel 37. Comme nous l'avons vu, un aspect important de la mission du serviteur d'Ésaïe consistait à favoriser ce retour à Dieu. C'est ce que Jésus accomplit en rassemblant un petit troupeau, Luc 12, verset 32, ou un reste, Romains 9, versets 27, 11, verset 5, d'Israël, en fonction de sa capacité à répondre à son appel. D'après les prophètes, cet Israël nouveau enseignerait les voies de Dieu à toutes les nations. Ésaïe 2, versets 2 à 4, Malachie 1, verset 11, et regrouperait toutes les nations. Ésaïe 66, versets 19, 20, Zacharie 8, versets 20 à 23. Les auteurs du Nouveau Testament témoignent de cet Israël nouveau où il n'y a plus ni juif ni grec, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, versets 28, 29, voire Romains 9, verset 6. Ainsi, Paul peut parler de l'Israël de Dieu, Galates 6, verset 16, et de la circoncision du cœur, Romains 2, verset 29, de ceux qui mettent leur fierté en Jésus-Christ, Philippiens 3, verset 3. Pierre peut parler des chrétiens comme d'une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. 1 Pierre 2, verset 9, voire Exode 19, verset 6. Et Jean peut parler de ceux sur le front desquels se trouve le nom du Père et celui de l'agneau, Apocalypse 14, verset 1, et qui ne font pas partie de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, Apocalypse 2, verset 9, 3, verset 9. On trouve des images fortes décrivant cet Israël nouveau et unifié dans tout le Nouveau Testament. Un troupeau et un berger, Jean 10, verset 16. Un olivier, Romains 11. Un temple spirituel, Éphésiens 2. Une vierge eschatologique, Apocalypse 12. Et notamment, la vision de la Nouvelle Jérusalem accordée à Jean, avec le nom des 12 tribus sur ses portes et le nom des 12 apôtres sur ses fondations. Apocalypse 21, versets 12-14. Conclusion. Les auteurs bibliques utilisent l'écriture de différentes façons, mais l'historicité de tous les événements relatés n'est jamais remise en question. Au contraire, tout le récit biblique est accepté de manière factuelle, y compris le récit de la création, de la chute et du déluge. De la même façon, les événements futurs qui sont prophétisés, comme le jugement et le retour du Christ, sont considérés comme certains et ne sont pas non plus remis en question. En citant l'Écriture, les auteurs bibliques montrent qu'ils ont toute confiance dans son unité, sa clarté et sa véracité historique. Une étude approfondie de ces citations et de la façon dont les auteurs bibliques les utilisent met en lumière leur compréhension de l'intention d'origine, exégétique, ainsi que leur connaissance des passages dont elles sont tirées et leur lien avec le contexte très large de l'Écriture. Le récit des actions de Dieu, à la fois passées et futures, est une source permettant de mener des réflexions théologiques profondes grâce à des images fortes utilisées pour décrire ses actions de façon diverse, mais toujours liées. La création et l'exode sont des sujets porteurs d'espérance et de salut, car les actions passées de Dieu éclairent la manière dont il agit plus tard. Les auteurs bibliques semblent être cités de façon rhétorique, en utilisant le langage du texte, mais en faisant une application différente de l'intention d'origine. Cependant, une étude approfondie montre qu'il est possible de percevoir cela comme un usage exégétique avec une application conforme aux critères du 1er siècle pour une interprétation littérale de l'Écriture. Concernant les prophéties, les auteurs bibliques n'hésitent pas à en accepter la dimension prédictive qui est plus présente que certains ont bien voulu le reconnaître. Elle apparaît clairement dans les livres apocalyptiques de Daniel et de l'Apocalypse, que l'on peut distinguer des prophéties générales proposées par la plupart des prophètes de l'Ancien Testament. Les auteurs du Nouveau Testament accordent une attention toute particulière aux prophéties et aux types concernant le Messie, y compris les chants du serviteur d'Ésaïe qui, dans leur contexte, semblent avoir une signification collective ou individuelle. Les prophéties de l'Ancien Testament concernant Israël sont largement prises en compte par les auteurs du Nouveau Testament qui semblent avoir discerné dans l'Écriture une intention divine très large, à savoir le fait qu'Israël soit devenu une nation afin d'adorer Dieu et soit avant tout une entité spirituelle. L'Écriture n'évoque jamais l'idée qu'Israël puisse être recomposé par Dieu pour former une nation. Au contraire, les Israélites étaient sans cesse invités à accepter la parole de Dieu dans un esprit d'obéissance. Ainsi, il devait être une bénédiction pour les autres nations et leur faire découvrir le véritable Dieu. Ce principe majeur est toujours vrai à la période du Nouveau Testament, dans le sens où la réponse d'Israël à Jésus-Christ, qui accomplit les attentes messianiques des prophètes, détermine l'avenir de la nation et le salut individuel. Les plus grands espoirs de l'Ancien Testament se réalisent d'une façon qui transcende cette vie et ce monde. Ces attentes qui n'étaient qu'entreaperçues sont présentées de façon plus importante et sur un plan universel, voire cosmique, dans le livre de l'Apocalypse. Il devient donc clair que les premières promesses de Dieu, mentionnées dans sa parole, loin d'être annulées ou rendues caduques, sont mises en avant et envisagées de telle façon que tout Israël, l'Israël de Dieu, sera sauvé, et qu'une nouvelle terre et un nouveau ciel où la justice régnera s'imposeront. Enfin, étant donné la cohérence et la confiance avec lesquelles l'Écriture est abordée par les auteurs bibliques, à la fois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il semble raisonnable de s'attendre à ce que d'autres auteurs inspirés emploient ultérieurement une méthode interprétative similaire.